prochain podcast.
Romains au chapitre 4, et je vais lire à partir du verset 18 jusqu'à la fin du chapitre. Romains 4, verset 18, il est question ici d'Abraham et de la promesse que Dieu lui avait faite de lui accorder une descendance. Et voilà ce que Paul écrit au chapitre 4, verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut, c'est-à-dire Abraham crut, la promesse de Dieu, et devint ainsi père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. Et, sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort. Mais, face à la promesse de Dieu, il ne douta pas par incrédulité, mais, fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu. Pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut compté comme justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit « cela lui fut compté ». C'est aussi à cause de nous, à qui cela sera compté, nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus, notre Seigneur, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Voilà, jusqu'ici cette lecture. Et avant le message, je vous invite à chanter encore un cantique dans la fournoire, c'est le numéro 9.
Je vous invite à trouver Genèse chapitre 22. Sans doute, vous connaissez cet événement dans la vie d'Abraham très bien. Nous lisons au début de ce chapitre. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac ». Va-t'en dans le pays de Moria et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, « Vous restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et prit dans sa main le feu et le couteau. Parce qu'il faut tuer le sacrifice et il faut le brûler tout entier. Ils marchèrent tous deux ensemble. Petite phrase. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit « Mon père ». Il lui dit, répondit « Me voici mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois ». Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit l'autel et disposa le bois. Il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» Et l'ange dit « N'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Adonai Yéré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Le nom de l'endroit signifie probablement « il pourvoira ». Avant de vous donner les... discuter avec vous les trois choses que Dieu nous montre, entre autres, au moins les trois que je voudrais discuter avec vous aujourd'hui, un peu d'arrière-plan. Parce que nous ne pouvons pas comprendre ce que Dieu fait dans cet événement vraiment complètement extraordinaire de l'histoire sans comprendre l'arrière-plan. Rappelez-vous, tout simplement, et je vais aller vite parce que vous qui êtes là, vous savez déjà. Isaac était un fils promis, n'est-ce pas? Dieu lui avait promis un fils, mais pas seulement un fils. Parce que quand Dieu lui avait fait la promesse, il lui a dit ceci. Il lui a dit que je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et plus loin, il dit que cette bénédiction qui va atteindre toutes les nations de la terre va venir à cause de ce descendant, de ce fils promis. Donc, Dieu dit à Abraham, je vais bénir le monde entier. Je suis au pied d'œuvre pour une chose qui dépasse le fait que tu vas avoir une famille. Il y a une chose qui concerne les âges, les siècles, les pays, les peuples, l'humanité tout entière. Et quand il dit qu'à travers ce fils promis, je vais apporter la bénédiction, il faut comprendre le mot béni bien. Parce que parfois, nous pensons que ça veut dire quoi, béni? Dieu m'a béni. Bon, Dieu a donné à mon mari un nouveau travail, il nous a béni, n'est-ce pas? Ou Dieu nous a donné un enfant en bonne santé, Dieu nous a béni. Donc parfois, la Bible peut utiliser le mot bénir comme ça, un bien particulier que Dieu m'a donné. Mais c'est pas dans ce sens que la Bible utilise le mot bénir dans son sens premier. Le sens premier, les nations seront bénies, ça veut dire les nations ne seront plus maudites. C'est-à-dire être béni veut dire être amené, ramené à Dieu et à sa faveur. Parce que la Bible dit que vous pouvez être dans un de deux endroits. Soit Dieu est pour vous, donc vous êtes béni, vous êtes sous la bénédiction. Soit Dieu est contre vous à cause de vos péchés et vous êtes maudit. Et chacun de nous aujourd'hui, nous sommes dans un cas ou l'autre. C'est pour cela que dans le livre de Galates, Paul cite ce passage de Genèse qui parle de la bénédiction, ces passages, et il dit ceci, écoutez bien, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, qu'est-ce que ça veut dire justifier? Ça veut dire mettre les hommes en règle, les mettre dans la faveur de Dieu, faire d'eux des hommes bénis. ami de Dieu. Donc, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Paul dit que l'Écriture prévoyant la justification parle de la bénédiction. D'accord ? Justifier les nations, rendre les hommes de toute nation en règle, pardonner juste avec lui. C'est ça cette bénédiction que Dieu annonce. Donc nous voyons que Dieu a pris cet homme Abraham, il n'était rien, c'était un païen qui adorait des faux dieux. Dieu se révèle à lui, l'arrache de son péché, lui dit « Je vais te donner un fils et par ce fils, je vais ramener des hommes de toutes les nations, les âges, les siècles à moi-même et ils seront bénis, justifiés dans ma faveur pour l'éternité sans fin. C'est ça que je vais faire par ce fils. » Par ce fils, bien sûr, parce que par sa ligne viendra un autre fils, qui est Jésus-Christ. Maintenant, comment est-ce que, si tu étais le Seigneur, et heureusement tu ne l'es pas, comment est-ce que tu ferais comprendre à Abraham que ce que tu es en train de faire à travers ce fils est vraiment quelque chose de terrible ? Dans le bon sens, d'immense, d'éternel. Bon, Dieu a fait ça de différentes manières. Vous vous rappelez comment il lui a montré ? Un jour, il l'endormit, le soir vient, et il fait voir à Abraham une fournaise qui brûle et qui passe à travers des morceaux d'un sacrifice que Abraham a dû mettre. Et c'est Dieu lui-même qui passe dans un feu à travers un animal tué et Dieu lui promet qu'il va garder l'alliance. Donc une sorte d'expérience terrifiante qu'est-ce que tu aurais compris par ça ? Abraham n'a pas tout compris peut-être, mais il a compris qu'il y a quelque chose de terrible que Dieu est en train de faire. Aussi, le fait que Dieu a promis le Fils. Et il fait attendre à Abraham 25 ans entre la promesse et la naissance d'Isaac. J'attends. Abraham a presque quel âge ? Presque 100 ans quand Isaac est né. Sarah, à peu près aussi âgée, peut-être aussi. Mais pourquoi est-ce que Dieu fait ça ? Pour montrer... Il fait venir une vie de la mort, parce que le texte que Joël a lu dit que le sein de Sarah était mort. Et ce fils promis, il va venir de la mort. Dieu fait une résurrection, la première dans l'histoire humaine. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons, je ne vais pas tout dire. Mais certainement, tout cela a fait comprendre à Abraham que Dieu est en train de faire quelque chose de cosmique à travers ce fils. Non pas qu'il est le sauveur, mais qui donne lieu dans sa ligne au sauveur. Mettez-vous à la place d'Abraham, mettez-vous à la place de Sarah, 25 ans, pas d'enfant, quelle tristesse, tout seul, chaque soir, moi et toi. Et il y a Ishmaël, mais ça ne compte vraiment pas. Et on sait que ça ne compte pas. Ce n'est pas notre enfant à nous, moi et Sarah. Et l'enfant est né, et c'est un miracle. Les gens s'étonnent. C'est même un peu embarrassant pour Sarah, quelque part, n'est-ce pas ? Tu as 95 ans, tu es enceinte. Et tout le monde regarde vers toi. Les journaux écrivent. Mais il y a quelque chose d'immense et cet enfant est là. L'enfant grandit et il se trouve que cet enfant est vraiment la joie de sa famille. Ce n'est pas un Jacob, ce n'est pas un mesquin, ce n'est pas un enfant difficile, il est vraiment agréable, ce garçon. Vous le voyez dans le fait qu'il se laisse ligoter. Vous voyez, il a à peu près quel âge à cette époque quand il est ligoté à cet hôtel?
10 ans.
Non. Il a à peu près 17 ans. Et il se laisse ligoter par son père. Et nous voyons dans les petits détails de la relation qu'on nous raconte que c'est un fils agréable. Et donc, voilà, nous arrivons à ce jour où l'Éternel lui dit une chose qui brise le cœur, qui stupéfait Abraham et Sarah. Qu'est-ce qu'Abraham a dû faire lorsqu'il a dû aller vers Sarah pour dire « L'Éternel Dieu m'est apparu et il m'a dit que je devais tuer le fils. » Quelle était sa réaction? Sans doute, c'était la stupéfaction, sans doute le tremblement, sans doute la colère. Tu n'as rien compris, ne me dis pas ça. C'est pas l'Éternel. Qu'est-ce que tu nous racontes? C'est Dieu qui nous a promis que c'est ce fils qui serait le père d'une descendance. Et maintenant, tu me dis que tu vas le tuer. N'est-ce pas? Ça devait être une chose incroyable. Mais la Bible laisse tout cela complètement en silence. Et tout ce que nous savons, c'est que Abraham se lève quand? De bon matin. Le lendemain, tôt, il obéit. Parce que c'est l'Éternel Dieu qui lui dit de faire l'impensable, l'irrationnel, l'illogique pour lui. Premier grand point, et après cette longue introduction, je suis déjà entré dedans, une leçon au sujet de l'amour de Dieu. Donc, Abraham part de bon matin, il a ses deux serviteurs, il a Isaac, et il connaît l'endroit. Seulement, 3 jours de marche. 3 jours de marche. Avez-vous jamais fait une marche sur le sentier de Saint-Jacques de Compostelle? Ou un autre endroit où on peut marcher pendant 3 jours, ou 5 jours, ou 2 mois? Ma femme l'a fait, 5 jours de marche. Tu as du temps, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a rien à faire, sauf marcher et penser et parler. Personne sauf Abraham ne sait qu'il doit égorger et brûler tout entier le fils qu'il aime. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité, ça s'est passé. Qu'est-ce qu'Abraham doit faire pendant les 3 jours? Il a le couteau, il a le feu, il arrive à l'endroit où il voit la montagne, et même voit la montagne, le fait trembler au-dedans de lui. Isaac ne le sait pas, les serviteurs ne le savent pas, mais il est en train de pleurer depuis 2 jours et demi déjà dans son cœur. Il est en train de désintégrer. Vous savez, je connais des gens qui ont perdu un enfant. Je sais le drame. J'ai été à l'hôpital quand j'ai vu quelqu'un perdre un enfant. Et Abraham doit lui-même tuer son fils. 3 jours pour réfléchir, 3 jours pour ne rien dire. Et on laisse les serviteurs. Et Abraham dit, par la foi, nous reviendrons auprès de vous. Mais ça ne change rien. Abraham ne sait pas tout. Abraham pense qu'il doit égorger et sacrifier son fils. C'est tout ce qu'il sait. C'est pour cela qu'il lève le couteau. Et je dirai tout à l'heure. En tout cas, ils montent ensemble les deux maintenant. Et le texte nous dit, deux fois, ils marchaient ensemble. Et le fils dit, papa, mais où est le sacrifice? On a le couteau et le feu. Et Abraham doit dire en lui-même, peut-être en retenant l'émotion, mon fils, Dieu lui-même pourvoira le sacrifice. Et je ne peux que penser, qu'il veut dire Isaac. C'est-à-dire, Dieu a un sacrifice pourvu, mais je ne peux pas te dire avant le moment. Il dit plus qu'il ne sait. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que Hébreux 11 nous dit ceci. Hébreux 11 nous dit, c'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac, c'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait reçu les promesses que ce fils allait donner lieu à une descendance. Donc il n'allait pas finir à 17 ans. Il allait devenir adulte et enfanté. Dieu l'a promis. Donc lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Abraham comptait que Dieu était puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts. Vous avez compris? Abraham pense qu'il va tuer son fils. Et il le fait parce qu'il croit que Dieu est capable de le ressusciter des morts. Il est convaincu. Il peut aller seulement parce qu'il sait, ben, comme Dieu a promis que cet enfant va avoir une descendance, il va avoir une descendance. Et puisque je dois le tuer, Dieu va le ressusciter d'entre les morts. Et donc, Dieu pourvoira. Dans son cœur, pour le moment, signifie toi. Nous savons le reste. Il ligote son fils. Comment est-ce qu'Isaac l'a permis? Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Mais papa, qu'est-ce que tu fais? Je dois t'expliquer, mon fils. Et il n'y a que des larmes. Et je suis sûr qu'il a dû arrêter plusieurs fois. Je suis sûr qu'il y avait des embrassements. Je suis sûr qu'il n'a pas pu le dire d'une fois. Et il a pleuré comme jamais un homme n'a pleuré. J'en suis sûr. L'Éternel m'a dit. Mais je suis convaincu parce qu'il a promis que c'est toi. Et c'est incroyable, mais Isaac aussi croit, apparemment. Il croit et il se laisse ligoter par foi en l'Éternel Dieu et amour pour son Père qui lui dit fais-moi confiance. Mais ce que je veux vous dire, c'est que souvent on nous dit que, on prêche sur ce passage et on vous dit que la grande leçon, c'est que Abraham a donné ce qu'il avait de plus cher. Et nous aussi, nous devons donner de ce que nous avons de plus cher. Ce n'est certainement pas la leçon principale de cet événement. Certainement pas. C'est très humaniste. Et c'est vrai, nous donnons à Dieu ce que nous avons de plus. Mais nous allons voir que le texte lui-même dit que ce qu'a frappé Abraham, c'est pas ça. La première leçon que nous avons, c'est une leçon au sujet de l'amour de Dieu. Pourquoi est-ce que Abraham doit aller jusqu'à ça? Le visage couvert de larmes, le cœur complètement brisé, et Dieu lui dit non, arrête. Pourquoi? Parce que Abraham doit vivre personnellement ce que c'est que de ne pas épargner un fils unique. Et bien aimé. Parce qu'il doit comprendre, et vous devez comprendre, qu'est-ce qui est derrière ton salut. Dieu est en train de nous dire, tout ce que tu as vu en Abraham, tout ce qu'Abraham a dû sentir et vivre en désintégrant, Dieu, le Père, a vécu. Il a mis Abraham à sa place pour que Abraham et nous puissions comprendre ce que c'est que de perdre, de ne pas épargner un fils unique. Pourquoi est-ce que j'en suis sûr? Parce que la Bible me dit. La Bible tire cette leçon elle-même. Vous savez dans quel verset, n'est-ce pas? Romains 8. Reprend le langage de Genèse 22. Et Romains 8 nous dit ceci. Je vous lis le verset 32. Et sans doute Paul est en train de tirer la leçon de Genèse 2. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas tout avec lui par grâce? Et partout dans Genèse 22, nous voyons cette répétition. Écoutez bien et comprenez ce que ça veut dire maintenant. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et ne l'épargne pas. Et allez voir comment tu te sens. Allez voir ce que c'est. Et quand il le fait, l'ange l'arrête et lui dit, « N'étends pas ta main sur lui, j'ai reconnu que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas épargné, c'est le mot, en Romains 8, que tu ne m'as pas épargné ton fils, ton unique, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique. » Une leçon au sujet de l'amour. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est la première leçon. La deuxième leçon dans cet événement, c'est une leçon au sujet de la méthode du salut. Comment est-ce que Dieu vous sauve? Nous voyons maintenant par quel amour il vous sauve, à cause de quel amour il vous aime. Comme ça. Mais comment est-ce qu'il le fait? Comment est-ce que Dieu peut prendre des gens coupables, mauvais, méritant la condamnation, et les amener à la condamnation, de la condamnation, de la malédiction, à la bénédiction? Nous avons un exemple vivant parce que Dieu sauve quelqu'un dans ce passage. Nous voyons la méthode. Qui est-ce que Dieu sauve? Dieu sauve Isaac. Dieu montre sa méthode. C'est quoi la méthode? Regardez bien, c'est dans le texte. Nous lisons que dans le verset 13, Abraham leva les yeux dès que la première leçon est finie. Dès qu'il a complètement senti ce que c'est que de devoir exécuter ton propre fils, la deuxième leçon commence. Et dans le verset 13, il lève ses yeux et il voit derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Voilà la méthode du salut. Dieu sauve Isaac en pourvoyant un autre sacrifice à sa place. Cette leçon est tellement grande pour Abraham qu'il nomme le lieu Dieu pourvoit. Et nous, les chrétiens, nous voulons écrire ça sur toutes les pancartes, n'est-ce pas? Comment est-ce que Dieu t'a sauvé? Quand tu étais ligoté par tes péchés, quand le couteau pour te te détruire, te punir de la loi sainte de Dieu tombée sur toi. Dieu a pourvu sacrifice à ta place. Sauf pour Abraham, c'était un bélier qui sauve le fils unique. Pour nous, c'est le fils unique qui n'est pas épargné ou sauvé. Sauve-toi toi-même si tu es le fils de Dieu. Pour nous, pour toi, c'est la méthode, c'est que ton Isaac ne peut pas être sauvé parce qu'il est le sacrifice que Dieu a pourvu. En tout cas, Abraham part là, tout épaté, tout émerveillé. Dieu, il veut courir. 3 jours de marche, 1 jour et quart de rentrée parce qu'il a couru. Parce qu'il voulait dire ce qui s'est passé à Sarah. Isaac est là! Comment est-ce qu'il a pu être sauvé? Dieu a pourvu un substitut! Et je vous dis, Dieu t'a pourvu un substitut. Gloire à Dieu. Dieu m'a pourvu un substitut. L'amour de Dieu est un amour qui a des cicatrices. Si nous mettons les deux premières leçons ensemble, l'amour de Dieu et la méthode de Dieu, nous voyons que l'amour de Dieu est un amour qui a des cicatrices. Voilà un violoniste incroyable. Il est capable, par sa musique, de faire sortir des gens des dépressions profondes. Des gens suicidaires, des gens qui ne veulent plus la vie, et des gens qui se sentent coupables, qui se sentent seuls. Il est capable, par sa musique, de les faire sortir de tout cela. Mais vous savez, ce n'est pas tous les violonistes qui peuvent le faire. Mais on entend quelque chose dans sa musique qui est différente. Et le déprimé sans que, ces cordes-là, je les connais. Toi, tu as été déprimé aussi, monsieur violoniste. Tu as connu l'emprisonnement. Tu as goûté la solitude. C'est là que nous nous sommes rencontrés. Je semble te reconnaître. Il entend quelque chose dans cette musique. Et quand la musique de l'Évangile vient vers nous, le violoniste montre ses mains et nous voyons qu'il y a des cicatrices. Là, il y a l'empreinte des clous. Et lorsqu'il nous amène cette musique de l'Évangile, c'est parce que cet amour est un amour qui dit « J'ai été là où tu es. J'ai goûté le fond de ce que tu n'as que commencer à goûter. Je viens pour t'en sortir. Mais j'en ai bavé pour le faire. » Dernière leçon. Une leçon au sujet de l'amour de Dieu et de la méthode du salut de Dieu. Maintenant, une leçon au sujet de la foi et de la crainte. On a parlé de Dieu, son amour. On a parlé de Dieu, sa méthode de salut. On va parler d'Abraham et de nous. Abraham a appris quelque chose au sujet de la manière dont lui et vous, nous devons marcher avec Dieu. Nous avons une chose curieuse dans le passage, c'est que l'Ancien Testament nous dit que c'est par crainte de Dieu qu'il a obéi. Regardez bien le passage. Verset 12, n'étends pas ta main sur le jeune homme, ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu. D'accord? C'est la crainte de Dieu qui était derrière cette action. Vous l'avez senti, hein? Quand il se levait de bon matin, parce que c'est l'éternel Dieu qui m'a dit de faire cela. L'irrationnel, l'incompréhensible pour moi, mais c'est l'éternel Dieu. D'accord, nous sommes d'accord avec l'Ancien Testament. Vous, non? Moi, oui. Mais le Nouveau Testament nous dit que, en revanche, c'est plutôt la foi qui a amené Abraham à sacrifier son fils. Je vous ai déjà lu Hébreux 11. Par la foi, Abraham offrit son fils parce qu'il a cru que Dieu pouvait le ressusciter des morts, comme c'était le fils promis qui devait grandir et enfanter. C'est par la foi dans la promesse de résurrection, enfin de cette ligne de salut, qu'il a fait ça. Jacques aussi nous dit que c'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac et qu'il a perfectionné sa foi par cette œuvre. C'est laquelle ? C'est la crainte de Dieu ou c'est la foi dans le salut de Dieu ? Ah ! Quand on s'approche suffisamment de cette œuvre sacrée de Dieu de notre salut, on se rend compte que dans ce cas, la foi et la crainte, c'est deux faces d'une même pièce. Je vais vous expliquer par une petite histoire. Il y avait un bateau qui était allé loin dans l'océan avec son équipe, son capitaine et entre autres le fils du capitaine, qui était un garçon un peu rebelle. Et un jour, au milieu de l'océan, lorsqu'il y avait des nuages qui venaient et un orage qui menaçait, il a fait ce que son père lui a dit de ne jamais faire. Il a grimpé le mât. C'est le mât. Il a grimpé le mât en temps d'orage. Parce que parfois, il faut grimper le mât pour étendre le voile. Les vents ont vite apporté un changement brusque et ce bateau commença à s'agiter violemment. Et le jeune homme, parce qu'il est jeune, il est pris de peur. Parce qu'il est très haut et il sait qu'une personne qui tombe d'un mât sur le plancher d'un bateau meurt. C'est pour cela que le père a dit, ne grimpe jamais le mât en temps d'orage. Et il n'y a qu'une seule solution. Parce que l'orage est sur eux, les pluies battantes, et ce jeune homme qui faiblit de plus en plus dans ses droits, dans ses muscles crampés, et qui a peur de descendre parce qu'il pense qu'il n'a pas suffisamment de force. Il est comme moi la première fois que j'ai fait de l'escalade. J'étais agrippé en haut et la dernière chose que je voulais faire, c'était de descendre. Le père saute dans l'eau. Les vagues et il crie vers son fils. « Mon fils, lorsque le bateau se penche vers l'eau, vers moi, tu sautes. Tu sautes. Je sais que tu ne sais pas nager. Je vais te sauver. » Le fils n'obéit pas. « Je ne peux pas lâcher. » Et le père est obligé pour sauver le fils, parce que parfois le salut est difficile. Il est obligé de dire, mon fils, si tu ne sautes pas la prochaine fois, je demande au premier lieutenant de te tirer dessus. Tiens-toi prêt, vise le jeune homme. Et pourquoi le fait-il? Parce qu'il sait que le jeune homme doit emprunter la seule méthode de salut qui lui est possible. S'il ne saute pas, s'il ne lâche pas lorsque le bateau est penché, il va mourir. Maintenant, le jeune homme a lâché. Au bon moment, le père a crié « Maintenant !» Et il a lâché, mais avec un pistolet pointé sur lui. Est-ce qu'il a lâché par crainte ou par foi? A-t-il lâché parce qu'il craignait la méthode de son père ou parce qu'il faisait confiance à la méthode de son père? C'est la même chose. C'est la même chose dans ce cas. S'il n'avait aucune confiance que ça menait à son salut, se faire tuer par le pistolet, autant le faire. C'est la foi et la crainte qui sont jointes ensemble. Et Abraham, ce jour-là, il offre son fils parce qu'il comprend que l'Éternel Dieu est en train de nous dire et lui dire « Il n'y a aucun autre moyen de salut que par un fils mort et ressuscité. Tu fais ce que je te dis, il n'y a aucune autre possibilité et tu dois le préfigurer pour le monde. Tu dois montrer que cette méthode de salut, le fils bien-aimé qui est donné parmi les pleurs par cet amour et qui doit mourir lui, il n'y a pas d'autre moyen. C'est un commandement et c'est un don. C'est une chose qui fait craindre. Parce que si tu n'empruntes pas ce chemin, chers amis, tu es comme le fils qui refuse de sauter. Vous voyez le problème? L'évangile n'est pas une option. L'évangile est un père qui t'aime tellement qui dit, si tu ne sautes pas, il n'y a pas d'autre moyen. Tu péris par ma main ou tu me fais confiance. Mais ne pas me faire confiance, ne pas faire confiance à Dieu, c'est détrôner Dieu. Nous ne pouvons vivre que par la foi. Nous ne pouvons, comme Abraham, lorsqu'il a appris que marcher avec Dieu, c'est lorsque tu entends quelque chose d'irraisonnable, d'illogique, d'impossible, d'incompréhensible, que tu te dis, c'est l'Éternel qui me dit que c'est ainsi, je ne le sens pas comme ça, mais c'est vrai. Il vaut mieux que j'obéisse et que j'obéisse tout de suite, parce qu'en cela est mon salut. Voilà une leçon que Abraham a compris au sujet de la crainte et de la foi que nous devons à Dieu. Il y a d'autres leçons dans ce passage. C'est juste que mon temps est plus que fini, 41 minutes. Et nous allons nous arrêter là. Nous pourrions parler de donner à Dieu ce qui est plus précieux. Mais je crois que, comme vous voyez, le passage nous pousse dans cette direction-là. Et rappelez que Christ est le centre de toutes les Écritures, pas moi, même pas ma vie chrétienne, même pas mon besoin de tout consacrer à Dieu, c'est Christ, c'est Dieu et sa consécration, c'est ce que Dieu donne qui est premier. Et notre réponse est ensuite. Les deux sont importantes, mais je ne peux pas répondre à Dieu à moins de voir d'abord à quel point il me donne. Et il se consacre à moi. Que Dieu nous bénisse en nous aidant à nous réjouir de cet amour vraiment et de cette méthode de salut divine, terrible et formidable. Nous allons laisser la place à Joël pour finir le culte.
peut-être se comprennent juste quelques minutes de prière si l'un ou l'autre d'entre